Stéphane Giuliani, vous êtes directeur des études médiévales à l'École française. L'École française, c'est un haut lieu intellectuel. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qu'est l'École française ?
L'École française de Rome est un institut de recherche et de formation à la recherche. C'est une des 5 écoles françaises de l'étranger, donc elle appartient à un réseau avec 4 écoles de Méditerranée, la plus ancienne étant celle d'Athènes, qui est née en 1846, puis a été créée l'École française de Rome en 1875, puis celle de Madrid, du Caire, et l'École française d'Extrême-Orient, qui est basée à Paris.
On étudie quoi à l'École française ?
Alors, l'École française de Rome est un institut de recherche et de formation à la recherche. Tout d'abord, une formation à l'histoire, à l'archéologie et aux sciences humaines et sociales. Dans le domaine de l'histoire du bassin méditerranéen occidental et de la péninsule italienne, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Alors, à côté de cette mission de formation à la recherche, il y a la recherche en tant que telle qui est étroitement liée et complémentaire et qui se traduit par des programmes de recherche qui sont accueillis à l'école, des programmes internationaux qui permettent de rassembler des chercheurs français, italiens, mais plus largement européens, méditerranéens et du monde entier.
Stéphane Giuliani, comment êtes-vous arrivé à l'École française ?
Alors, je suis arrivé à l'École française de Rome, je crois, presque comme tout le monde, à travers des rencontres. Les rencontres sont extrêmement importantes dans les études et je crois dans la vie de manière générale. Et j'ai entendu parler forcément du réseau des écoles françaises de l'étranger, et en particulier, puisque moi je m'intéressais beaucoup à l'Italie, aux pères de l'Église, donc à l'histoire de la spiritualité et des institutions ecclésiastiques italiennes, je me suis intéressé donc à cette institution et j'ai appris qu'on pouvait y passer quelques bourses pendant la période de la préparation de la thèse.
Est-ce que vous sentez que vos recherches vous transforment ? Et comment vous transforment-elles ?
Je crois que la recherche est une école de l'humilité, dans la mesure où elle répond à une curiosité. La curiosité d'apprendre tout ce qui peut constituer aussi une sorte d'humus, hein, l'existence collective, c'est-à-dire les traditions culturelles et l'histoire de nos pays, de nos sociétés, etc. Et elle nous transforme, et je pense que c'est aussi une école de l'humilité, parce qu'on apprend surtout qu'on ne sait pas grand-chose, et on apprend qu'il faut toujours apprendre davantage, se rapprocher davantage, communiquer davantage, et ouvrir aussi toutes les voies de la communication possible dans une époque où on est bien obligé de le constater, les frontières ont tendance à se refermer.
Justement, est-ce que vos recherches vous aident à avoir d'autres perspectives ? Vous travaillez en ce moment sur la papauté en Dalmatie. Est-ce que ce travail permet aussi de faire un lien avec ce qu'on vit ?
Alors je crois que oui. Alors dans le cas dalmato-croate, c'est assez évident dans la mesure où moi je m'intéresse surtout au processus historique qui a permis à la papauté d'imposer son autorité, et cela s'est fait essentiellement au Xe et XIe siècle, où le pape Grégoire VII et ses prédécesseurs ont permis d'être reconnus et de voir la légitimité de leur pouvoir reconnue dans ce territoire qui, encore aujourd'hui, depuis cette époque, est une terre éminemment catholique. Et on a vu à quel point la dimension confessionnelle et l'identité catholique et romaine de la Dalmatie-Croatie avaient joué un rôle très important dans la tragédie des conflits balkaniques dans les années 90.
Avec nous et avec vous, Stéphane Giuliani, des membres aussi de l'École française, Camille Roupetel, vous êtes aussi dans la partie médiévale.
Absolument.
Avec un objet, un travail de thèse qui donne envie de rêver. Ça s'appelle « Le regard des voyageurs latins sur les chrétiens d'Orient du XIIe au XVe siècle ». C'est quoi ce regard ?
Alors, il s'agissait de partir de la perspective occidentale à la perspective latine et la manière dont s'est construit progressivement un discours sur l'Orient chrétien et sur la diversité interne à la chrétienté, puisque dans le sillage des croisades, les Latins qui partent pour l'Orient, en l'espèce la Cilicie, la Syrie, la Palestine et l'Égypte, découvrent ou redécouvrent des chrétiens qui appartiennent à différentes églises, à différentes traditions. Donc c'est une manière d'approcher une altérité interne à la chrétienté. Et ce que j'ai voulu montrer ici, c'est comment se construit un discours sur cette altérité, et ce discours sur l'altérité et sur la diversité interne à la chrétienté se construit au croisement de trois phénomènes principaux. L'observation concrète sur le terrain, et c'est pourquoi je me suis concentrée sur les sources émanant de voyageurs, donc de latin parti pour l'Orient. Les représentations, qui sont des représentations occidentales, antérieures au voyage lui-même.
Qu'est-ce que c'est ces représentations ?
Alors ces représentations, ce sont les éléments qui structurent en amont le discours. Par exemple, la tension entre le mépris du monde et la curiosité qui sont au fondement du discours chrétien, du discours sur le pèlerinage, et toute l'ambivalence du pèlerinage, puisque le pèlerinage est d'abord condamné dans les premiers siècles de la chrétienté, notamment comme étant l'occasion d'avoir un contact avec le monde et comme étant finalement une occasion de développer la curiosité et donc de sortir d'un rapport spirituel direct avec le monde. Donc cette tension par rapport à la définition du pèlerinage, tension qui va être modifiée avec l'apparition des ordres mendiants qui vivent beaucoup plus dans le monde et qui ont un rapport effectivement à l'autre différent, donc les dominicains et les franciscains. Troisième élément, un savoir savant qui est l'héritage essentiellement du discours conciliaire et qui est très important pour l'appréhension des chrétientés orientales, et ça consiste essentiellement dans les condamnations au moment du concile de Chalcédoine notamment, qui va diviser les églises entre les églises chalcédoniennes, les grecs et les latins pour l'essentiel, et les églises non chalcédoniennes.
Mais pourquoi ce sujet ?
C'est sans doute la lecture d'un récit de voyage, qui était le récit de Guillaume de Rubruck, qui est un missionnaire franciscain qui est parti à la découverte de la Mongolie, qui est parti en mission en Mongolie, qui m'a beaucoup marqué pendant mes années d'adolescence. Et c'est suite à la lecture de ce récit que m'avait offert ma grand-mère, pour tout vous dire, que j'ai commencé à m'intéresser aux relations entre l'Occident et l'Orient via la Mongolie, et que j'ai commencé effectivement à vouloir travailler sur ce sujet.
Et en vue de quoi ?
Alors, en vue de poursuivre dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, toujours sur ces questions de médiation entre les chrétientés, chrétientés d'Occident et chrétientés d'Orient, et sur les modalités de la réintroduction de l'Orient dans le discours latin sur la chrétienté.
Reine Marie Bérard, vous êtes dans l'Antiquité et vous êtes intéressée d'une part à la Sicile du 8e siècle au 5e siècle avant le Christ, et pas n'importe quoi, vous êtes intéressé au rituel funéraire. Pourquoi ?
Alors je dirais que j'ai d'abord choisi la discipline avant de choisir la région. Je voulais vraiment travailler sur les rituels funéraires. Et c'est quelque chose qui est apparu assez vite dans mes études, c'est la partie de l'archéologie qui m'intéresse le plus, qui me fascine le plus. Je trouve que paradoxalement, c'est la partie la plus vivante, puisque c'est là où on arrive à savoir comment les personnes vivaient. En étudiant des tombes, on peut savoir si les personnes ont bien mangé quand ils étaient enfants, s'ils ont été malades, s'ils se sont blessés.
Comment on peut le savoir ?
À partir de leurs os. Les os enregistrent une quantité d'informations incroyable, et étudier une tombe, c'est presque un roman policier où on retrace petit à petit la vie des gens. Et c'est très émouvant, en fait. Donc il y a à la fois la partie rituel funéraire, idéologie funéraire, en quoi ces gens croyaient, comment on s'occupe d'eux au moment de leur mort, qui est évidemment un moment très difficile pour tout le monde et pour la communauté et pour leurs proches. Et puis, voilà, il y a la partie idéologie funéraire, la partie mort, si on veut, et puis il y a la partie vie. Comment ils ont vécu, dans quelles conditions, est-ce que c'était une bonne vie, est-ce que c'était une vie difficile, et tout ça, on peut le retracer à partir de leur tombe.
Ça veut dire que vous n'êtes pas seulement archéologue, vous n'êtes pas seulement historienne, mais vous croisez plusieurs spécialités.
Voilà, moi j'essaye vraiment d'être au confluent de plusieurs disciplines, donc j'ai une formation de base en archéologie, véritablement, j'ai une formation en histoire également, et j'ai essayé de me former de manière secondaire en anthropologie biologique, c'est-à-dire à l'étude des os. Donc je ne suis pas anthropologue moi-même, je travaille avec des anthropologues, mais j'ai les compétences nécessaires pour fouiller une tombe de la manière à conserver le plus grand nombre d'informations et à travailler en collaboration avec les anthropologues pour obtenir toutes ces informations sur les personnes qu'on est en train d'étudier.
Comment en vient-on à étudier des rituels funéraires ?
Moi, je crois vraiment que c'est par intérêt pour les personnes elles-mêmes, en fait, pas pour toutes ces histoires individuelles qu'on va retracer à travers les tombes. Et puis aussi, je pense, parce qu'il y a une espèce de fascination universelle pour la question de la mort, évidemment, pour tout le monde, hein. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est aussi une façon de l'affronter, en fait, toujours, de me confronter à cette question de la mort en la faisant très quotidienne, en fait, dans ma vie, en la faisant très personnelle. C'est aussi une façon pour moi, d'aller au-devant de cette question.
Est-ce que, quand on est enfant, on rêve d'être chercheur, Stéphane Joyani?
Alors, on peut le rêver suivant le contexte familial dans lequel on évolue, et on voit ce contexte quelquefois a beaucoup d'influence. Et c'était mon cas, puisque ma mère était chercheuse en cancérologie. Par ailleurs, pour tous les enfants, et la plupart des enfants épris de curiosité, la recherche répond à cette curiosité, presque une façon d'être au monde, toujours essayer de comprendre, et peut-être aussi de remettre en cause des évidences. Ne serait-ce que ces repères géographiques et géopolitiques que sont l'Occident et l'Orient, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Quand on est médiéviste, je dois dire qu'on voit que ces repères géographiques et géopolitiques sont très limités et peuvent être remis en cause. Par exemple, la Sicile musulmane médiévale, ou la Plaston, enfin, c'est un vrai problème. On voit que se construit certes des réalités historiques, se construit aussi un discours sur l'histoire dont on est largement tributaire et qui a beaucoup d'influence sur notre représentation du monde, quelquefois sur nos sociétés. Et la recherche historique, eh bien, permet de se poser des questions, d'avoir un regard critique sur l'histoire, mais aussi sur notre présence.
Merci à vous.
Merci infiniment.